Chapitre 46. Bien avant l'aube, la belle flambée devint un tas de braises oranges, mais Nietzsche ne réveilla pas Bannon pour qu'il la relaie. Ayant besoin de très peu de sommeil, une nuit blanche ne lui faisait pas peur. Attentive, elle la passa à scruter les formes inquiétantes des roches et à tendre l'oreille. Dès qu'elle se réveilla, Chardon vint s'asseoir à côté de son ami. En silence, elles attendirent que le soleil pointât l'horizon. Bannon s'étira, bâilla, se leva et épousseta ses vêtements. Dès qu'il eut fini, le trio se remit en route, abandonnant les vestiges du feu de camp. Sur le chemin de la Mesa, qui dominait la balafre, Bannon et Nietzsche suivirent le lit d'un ruisseau, pendant que Chardon, loin devant, bondissait de rocher en rocher avec l'agilité et la vitesse d'un lézard. Découvrant un filet d'eau, la magicienne et son compagnon remontèrent jusqu'à la source, dont ils écoutèrent le gazouillis avec ravissement après le silence oppressant de la balafre. La puanteur du soufre encore dans les narines, ils firent un brin de toilette. Les rejoignant, Chardon s'aspergea aussi le visage d'eau pour en chasser les dépôts alcalins.
« Le buveur de vie peut encore nous espionner ? » demanda-t-elle. « Ici ? » ?»«
C'est possible, » répondit Nietzsche.
« Et il y a d'autres dangers ? En ce monde, quelqu'un ou quelque chose pense toujours à te tuer. N'oublie jamais ça. »
En slalomant entre les rochers, Chardon aperçut plusieurs fois des lézards. Tentée de les chasser, elle s'en abstint, consciente que ce n'était pas le moment. Épée au poing, à tout hasard, Bannon avançait maladroitement sur ce terrain accidenté. Toute la nuit, Nietzsche avait senti la présence de prédateurs autour du camp, mais sans jamais rien entendre ni voir le moindre mouvement. Là, elle éprouvait le même sentiment, comme si on l'épiait. Quelques pas derrière Bannon, elle sondait les environs, se demandant si leur adversaire allait leur tendre une autre embuscade. Mais elle ne voyait rien. Jusqu'à ce qu'un poids s'abatte soudain sur son dos. Venu de très haut, une sorte d'avalanche de fourrure ocre et de griffes acérées. Une avalanche qui feulait. Le choc expédia la magicienne au sol avant qu'elle ait le réflexe d'invoquer sa magie. Bannon se retourna en criant, Chardon lui fit écho. Parfaitement camouflés sur des rochers ocres, deux autres silhouettes félines tombèrent du ciel. Des panthères du désert, avec des griffes et des crocs incurvés comme des sabres et tout aussi mortels. Le souffle coupé par le choc, Nietzsche tenta quand même de résister. Hélas, l'animal était une montagne de muscles animée par une incroyable rage de tuer. Avec un peu de malchance, tout serait fini en quelques secondes. La magicienne évita un coup de patte, mais un autre déchira sa robe noire et creusa un sillon sanglant dans son dos. Stimulée par cette première victoire, la panthère tenta de planter ses crocs dans le crâne de sa proie. Si elle avait pu se concentrer et disposer d'un peu de temps, la magicienne aurait localisé le cœur de la bête, le forçant à s'arrêter sur le champ. Ne pouvant pas s'offrir ce luxe, elle lança à l'aveuglette une onde de magie, un mur d'air comprimé sans direction bien précise, qui projeta la panthère en arrière. Le dos en sang, Nietzsche se releva péniblement. Adossé à un rocher pour protéger ses arrières, Bannon faisait des moulinets avec son épée et un de ses coups entailla le flanc de la deuxième panthère. La troisième, essayant de la coincer, Chardon courait en zigzag avec l'impression d'être une souris poursuivie par un gros chat. Furieuse de voir sa protégée en danger, Nietzsche frappa avec l'intention de faire exploser le cœur du fauve et cette fois, elle avait tout le temps de viser. Rien ne se passa. Le sort était bien parti, mais il avait rebondi contre la panthère comme un caillou qui ricoche sur l'eau. Un deuxième essai ne fut pas plus concluant. Pourtant, à l'inverse de Nathan, Nietzsche était en pleine possession de ses moyens, mais le fauve était immunisé contre ses sorts. Sur sa fourrure, la magicienne vit qu'on avait imprimé des symboles au fer rouge, des pictogrammes qu'elle identifia comme des composants de sorts, une armure magique ou quelque chose comme ça. Ces félins n'étaient pas des bêtes sauvages. Quand la première panthère bondit sur elle, Nietzsche la bombarda de lances de feu qui auraient dû la carboniser. Après que les flammes eurent roulé sur elle sans la blesser, la bête continua sa charge. Quelle magie aurait été efficace contre le sort de protection ? N'ayant pas le temps de creuser la question, Nietzsche dégaina son couteau. Défense magique ou non, une bonne lame faisait toujours des dégâts. Frappant dans le vide pour impressionner son adversaire, la magicienne s'écarta au dernier moment de sa trajectoire. Une belle esquive, mais l'heure n'était pas à jouer au plus fin avec ces monstres. Il fallait les tuer. Chardon contourna un bloc de roche détaillé d'une muraille,
puis se cacha derrière un pain ratatiné. Oubliant toutes les subtilités enseignées par Nathan, Bannon se défendait en maniant solide comme un vulgaire hachoir. Contrarié qu'on lui résiste, la panthère feulait de rage. « Les trois fauves, » remarqua Nietzsche, « se déplaçaient avec une étrange coordination. Selon une stratégie déterminée, ils avaient isolé leur proie et chacun savait parfaitement ce qu'étaient en train de faire les deux autres. Même si elles ne parvenaient pas à déchiffrer les symboles sur leur fourrure, Nietzsche en savait long sur les animaux liés par magie. Ces panthères formaient une troca, autrement dit un trio de combattants liés mentalement afin d'avoir une efficacité maximale. Des prédateurs envoyés par le buveur de vie? Peut-être, mais ce n'était guère probable. Ces félins n'appartenaient pas à la balafre et moins encore à la vallée fertile de jadis. Ils avaient été élevés et dressés ailleurs, par quelqu'un d'autre que Roland. Quoi qu'il en soit, ils étaient de parfaites machines à tuer. Le pourquoi ou le comment n'avait aucune importance. Du coin de l'œil, Nietzsche vit Chardon émerger d'un gros buisson. Constatant qu'une panthère la poursuivait, la fillette fit un roulé-boulé, se releva et brandit son couteau à deux mains. Certaine de ne pas pouvoir intervenir à temps, la magicienne retint son souffle, puis elle comprit que la gamine avait manipulé la bête, trop furieuse pour se méfier. Alors que le félin bondissait sur elle, Chardon lui enfonça sa lame dans le cou, en direction de la gueule, puis appuya jusqu'à traverser le crâne et atteindre le cerveau. Foudroyée, la panthère tomba sur la gamine et manqua l'écraser. Les deux autres fauves frémirent comme s'ils avaient eux aussi reçu un coup terrible, puis ils rugirent à l'unisson. Bannon profita de cette ouverture pour bondir et enfoncer sa lame dans le flanc de la deuxième panthère. Le cœur transpercé, la bête eut quelques convulsions avant de mourir. Nietzsche imita la manœuvre du jeune homme sur la dernière panthère, stupéfaite d'avoir perdu ses deux compagnes magiques. Folle de rage, elle fendit l'air avec ses griffes, mais la magicienne lui porta un autre coup. Reculant un peu, la bête se ramassa sur elle-même et chargea. Inspiré par Chardon, Nietzsche la laissa venir, puis s'empaler sur son arme. Dès qu'elle se fut dégagée de la panthère morte, Chardon vola au secours de Nietzsche. Avec une force étonnante, elle larda de coups l'adversaire de la magicienne. Non sans peine, Nietzsche écarta la panthère et se releva, couverte de sang, le sien et celui du fauve. Son dos était en lambeaux, elle le sentait. Sonné par la brutalité de l'attaque, Bannon retira distraitement sa lame du corps de la troisième panthère. « Je suis surpris que le buveur de vie ne nous ait pas envoyé des scorpions ou des mille pattes géants, » dit-il. Les poings serrés parce qu'elle sentait de plus en plus la douleur de ses blessures, Nietzsche secoua la tête. « Je doute qu'il ait un rapport avec ça. » La panthère qui avait failli tuer la magicienne n'était pas morte. Couchée sur le flanc, elle saignait d'une multitude de blessures. Bannon approcha de Nietzsche et sursauta quand il vit son dos déchiqueté. « Magicienne, ces plaies sont très graves, nous devons te soigner. » Nietzsche baissa les yeux sur ses bras également en piteux état. « Je vais m'en charger. » Sur ces mots, elle s'accroupit à côté de la panthère agonisante. « Elle n'en a plus pour longtemps. Il faut l'achever, mais à cause de ces symboles étranges, je vais devoir utiliser mon couteau. » La bête émit un grognement, de détresse plus que de menace. « Tu dois vraiment l'achever ?» demanda Bannon, blanc comme un linge. « Pourquoi ne la guérirais-tu pas ?» Nietzsche enfonça les sourcils de surprise. « Cette créature a tenté de nous tuer. Je ne vois pas pourquoi je l'aiderais. » On l'a dressée à faire ça. Ne devrions-nous pas essayer d'apprendre d'où elle vient? Les deux autres sont mortes et... Eh bien, c'est une si belle bête. Un très gros chaton en un sens. Bannon ne put en dire plus. L'adrénaline retombée, Nietzsche vivait un calvaire. La maudite bête lui avait labouré le dos, y creusant des sillons. Elle n'a rien à voir avec les pauvres petits animaux que ton père a noyés. C'est vrai, mais... Elle agonise, et tu peux la sauver. » Chardon approcha et leva ses yeux couleur de miel sur Nietzsche. « Mon oncle et ma tante disaient qu'on ne doit pas tuer, sauf quand on ne peut pas faire autrement. » Couverte de sang, la fillette semblait traumatisée. « Et là, on peut faire autrement, » renchérit Bannon. Nietzsche posa une main sur la fourrure ocre afin d'évaluer la gravité des blessures. Le sort de protection ne la repoussant pas, il supposa qu'il agissait uniquement en cas d'attaque. « Je peux la guérir, oui. Mais je dois vous dire que ces trois panthères étaient liées par un sortilège. Les deux autres membres de la Troca sont morts. Si nous la sauvons pour la condamner à la solitude, ça ne sera pas vraiment lui faire une faveur.
Sauver, c'est toujours bien,
insista Chardon.
Je t'en prie, Nietzsche.
Affaiblie par ses blessures, la magicienne ne trouva pas la force de polémiquer. Quand elle posa la main sur une plaie profonde, son sang et celui de la bête se mêlèrent. Le fluide vital de deux êtres entraînés à tuer. Nietzsche invoqua sa magie thérapeutique, puis la déversa dans le corps de la panthère. À cet instant, comme si un ultime maillon venait de compléter une chaîne, son esprit et son corps se lièrent à ceux de la bête. Alors que la magie thérapeutique guérissait toutes les entailles, les coutures et les plaies profondes, chez deux sujets en même temps, Nietzsche capta les ondes mentales de la bête. Écartant les mains, elle recula, mais le phénomène ne disparut pas. Un lien existait, c'était indéniable. Une union de sœur à sœur.
Elle s'appelle Mra,
souffla Nietzsche.
J'ignore ce que ce mot veut dire. Ce n'est pas vraiment un nom, si je comprends bien.
La panthère aux grands yeux verts prit une profonde inspiration et se releva. Désorientée, elle agita frénétiquement la queue.
Que s'est-il passé ?
Demanda Bannon.
Qu'as-tu fait ? Nos sangs se sont mêlés. La mort de ses sœurs de magie a laissé un vide en elle. Quand mon don a guéri Mra, il a rempli ce vide, en nous deux. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. Désormais, nous sommes liés, mais toujours indépendantes.
La panthère leva la tête vers sa nouvelle sœur. Malgré leurs liens, Nietzsche ne put pas déchiffrer les symboles imprimés sur sa fourrure, mais elle capta en revanche le souvenir de la douleur de Mra lors du marquage. Les yeux rivés sur son ancienne proie, la panthère tressaillit. Puis, elle regarda les cadavres de ses deux autres sœurs. Avec un grognement, elle s'éloigna des trois humains que sa troca avait eu pour mission de tuer. Nietzsche sentit le lien s'étirer et faiblir. Incapable de communiquer avec Mra ou de comprendre ses pensées, elle savait pourtant que Chardon, Bannon et elle n'avaient plus rien à craindre. Mra vivrait. Seule, mais elle vivrait. Entièrement seule? Non, parce qu'un peu de Nietzsche serait toujours en elle. Puissante et souple, la panthère bondit de rocher en rocher avec une grâce mortelle. Chardon la regarda s'éloigner. Son épée encore au poing, Bannon semblait toujours aussi troublé. Quand Mra eut disparu dans les ombres des canyons, Nietzsche éprouva un étrange sentiment de deuil.